Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
Tout de suite, nous n'avons qu'une terre sur Divergence FM.
Alix Rouagnac, bonjour.
Vous êtes bonjour.
Vous êtes le fondateur de Predic Service. Alors finalement, c'est quelque chose qui a été fondé il y a longtemps, puisque ça a été fondé en 2006, c'est ça ?
C'est ça, oui.
Voilà.
Predic Service a été fondé en 2006. Et en fait, l'idée remonte même à quelques années avant, puisque ce sont les crues dans le Gard en 2002 et celles dans l'Aude en 1999 qui avaient été à l'origine un peu de l'idée de Predic Service.
Alors, Predic Service, donc, c'est une structure qui est née à Nîmes, mais qui est à Montpellier, qui a vu le jour grâce à des industriels, donc BRL, Airbus, Météo France, hein, et qui maintenant, finalement, rend des services, bien sûr, à la région, mais aussi à la France et au monde. Alors, peut-être que avant que nous en parlions d'une manière un peu plus précise. Je sais que vous avez eu un week-end très agité avec ce qui s'est passé sur les crues dans l'Hérault, avec des morts, qui est un peu en fait une description du service que vous rendez.
Oui, effectivement, comme vous l'évoquiez, les équipes de Predic ont été sur le pont là, tout le week-end pour ce qu'on appelle un épisode méditerranéen ou Cévenol, qui a touché effectivement l'Hérault, le Gard, l'Ardèche, mais aussi le Var et les Alpes-Maritimes. Et de vendredi jusqu'à lundi, effectivement, les équipes ont été en contact avec les maires des différentes communes qui ont été impactées pour les aider à activer les plans de sauvegarde, toutes les actions d'anticipation de ces événements. On a fait partir avec nos partenaires assureurs des dizaines de milliers de SMS sur les communes qui ont été concernées pour demander aux gens d'être prudents, de reporter leur déplacement, d'éviter de se mettre en danger. Et malheureusement, vous l'évoquiez, le bilan tragique de ce week-end nous rappelle l'absolue nécessité de cette culture du risque, de rappeler que face à ces événements extrêmes liés notamment au dérèglement climatique, il faut être humble, être prudent et qu'il y a des bonnes choses à faire et des choses à éviter. Et on pensait, le Gard étant un département un peu malheureusement en pointe sur les événements, sur la culture du risque, et on voit la nécessité justement de continuer à porter ce message, à partager ces messages et à faire ce travail de pédagogie.
Alors merci encore davantage d'être présent aujourd'hui. Je sais que les problèmes se multiplient et que très certainement vous êtes beaucoup appelé sur ces problèmes. Alors décrivez-nous justement un petit peu la naissance et puis le rôle de Predic Service, puisque maintenant on va entrer dans la généralité plutôt de votre action.
Oui, alors l'activité de Predic, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, hein, l'idée est née en 2003 suite à ces événements tragiques qui avaient touché le Gard, l'Aude en 99, et l'idée est vraiment d'anticiper les événements et de mettre en œuvre ce qu'on appelle aujourd'hui à l'échelle internationale, on y reviendra tout à l'heure, l'alerte précoce, le early warning, qui consiste à quoi ? Qui consiste à l'échelle de chaque territoire, connaître le risque, étudier les zones inondables, les zones à risque, les croiser avec les différents enjeux, une école, une maison de retraite, un parking, une route, un passage à gué, travailler avec les collectivités sur les
actions. Donc là, vous êtes parti, en fait, vous avez commencé à travailler, puisque vous parlez de early warning, sur une demande qui était d'ordre mondial.
Oui, tout à fait. En fait, ce qui, il y a 20 ans, a été identifié comme un besoin à Sommières, à Saint-Géniès-de-Malgoërez, dans toutes ces communes qui avaient été touchées. Et les maires disaient, mais on nous avons pris des événements énormes sur la tête et on ne savait pas que faire. Mais ce besoin-là auquel on a répondu, on se rend compte qu'aujourd'hui, 20 ans après, il y a 20 ans, on parlait moins du dérèglement climatique, c'est une demande qui est une demande mondiale. Et le secrétaire général des Nations Unies, il y a 2 ans, a fait le constat que moins d'un pays sur 2 sur la planète dispose de ce système d'alerte et a fixé un objectif, c'est dire dans 5 ans, tout citoyen de la planète doit être couvert par un système d'alerte précoce. C'est ce fameux projet Early Warning for All, l'alerte précoce pour tous. On voit donc que ce besoin, il est mondial, comme vous l'évoquiez.
Alors, il est mondial et en fait, vous nous expliquez, et c'est quelque chose que l'on redit souvent sur cette antenne, que le risque lié au réchauffement climatique est de longue date dans les têtes et dans les tuyaux, j'ai un peu envie de dire, et finalement, vous avez commencé à travailler, mais ça répond à ceux qui disent vous le saviez, vous n'avez rien fait. En fait, c'est un peu dans l'ombre qu'un gros travail a été mené.
Oui, je crois que pendant longtemps, on a parlé du dérèglement climatique au futur. Et je faisais partie de ceux qui disaient il faut arrêter de parler de 2050, de 2100. Le dérèglement climatique, on en ressent les conséquences dès aujourd'hui. L'année 2022, l'année 2021, des records de chaleur battus dans nos régions, des pluies extrêmes. Et c'est ça qui est complexe. C'est-à-dire que le dérèglement climatique, c'est pas le réchauffement climatique, c'est pas toujours plus chaud partout. C'est des événements qui s'emballent. On a des moments où on a des grosses sécheresses, des grosses canicules, et puis d'un seul coup, du trop d'eau. Et il faut s'adapter, comme ça, le terme l'indique. Hein, il y a cette adaptation à faire qui a déjà commencé. Et il faut à la fois s'adapter et à la fois atténuer, c'est-à-dire essayer d'inverser la tendance. Mais quoi que l'on fasse aujourd'hui, l'inertie est telle qu'on a à court terme et immédiatement des besoins d'adaptation. Cette adaptation a commencé déjà au niveau des collectivités, au niveau des entreprises. Il y a des actions qui sont faites. Ben, il faut continuer à tous les niveaux, depuis le citoyen jusqu'à l'État ou même jusqu'au niveau international, parce que la solution passera par un accord qui soit mondial.
Justement, on va parler plus précisément de votre action justement sur Montpellier, mais je sais que vous participez depuis longtemps déjà à ce qu'on appelle les COP, c'est-à-dire ces réunions internationales et mondiales où on voit se avancer en fait les différentes actions qui peuvent être gérées et prises en responsabilité par les élus. Alors, je sais que vous faites partie de ceux qui disent les COP sont importantes. Pourquoi sont-elles importantes? Et justement, qu'est-ce que vous y faites? Vous n'y êtes pas là-bas simplement en représentation.
Oui, vous avez raison. Si j'ai pris effectivement ces positions, c'est que on a ce qu'on peut appeler en mauvais français un peu une COP bashing. On a eu lors de la COP 28 ou la COP 27, un peu partout dans le monde, mais particulièrement en France, des gens, des populations, des citoyennes, même des médias, en disant « mais oui, la COP, pourquoi la COP? Pourquoi la COP à Dubaï? C'est n'importe quoi, etc. » Ce qu'il faut comprendre, c'est que, un, on ne réglera le problème du dérèglement climatique qu'avec un accord international mondial qui réunit dans une même inertie la totalité des États. Parce que si les Américains, les Russes, les Chinois, les Indiens ne décident pas brutalement d'aller dans un sens d'atténuation, de moins émettre des gaz à effet de serre, la solution n'avancera pas. Et on aura beau, nous, en France, tous manger de la salade et rouler en vélo, le dérèglement climatique va se poursuivre. Donc il faut arriver à convaincre tous ces États qu'il faut aller en ce sens-là. Et c'est ce travail qui est fait à la COP. Et on ne l'a peut-être pas assez dit, les décisions qui ont été prises à la COP 28 à Dubaï, de, de stopper à terme les gaz à effet de serre avec les énergies qui soient des énergies fossiles. C'est une mesure qui est exceptionnelle. Il faut comprendre qu'on a des États qui, dont l'économie, dont la santé des populations dépendent de ces énergies fossiles. Donc leur faire prendre la décision d'arrêter, c'est quelque chose qui est énorme. Et le fait qu'il l'ait fait, c'est quelque chose qui est énorme.
Donc je suppose que quand vous allez sur le terrain, que ce soit à travers le monde, ou que ce soit en France, ou que ce soit chez nous, et que vous parlez des risques qui maintenant nous menacent, vous évoquez toujours cet amont qui est... il faut absolument réduire notre impact CO2.
Oui, tout à fait. C'est les deux sujets. Notre travail au niveau de Prédict sur le plan de notre raison d'être, c'est vraiment sur l'adaptation, l'alerte précoce pour éviter que ces événements extrêmes aient des conséquences très importantes. Donc notre rôle opérationnel, il est sur ce sujet. Mais ce n'est pas parce qu'on travaille sur cette adaptation qu'il faut oublier qu'il y a aussi l'atténuation. Et c'est un message qu'on essaie à faire passer, c'est il faut les deux en même temps. Il faut s'adapter immédiatement parce que les conséquences sont là et qu'elles vont être là pendant un moment, quoi que l'on fasse. Mais au-delà de là, il faut aussi atténuer parce que si on ne change pas notre trajectoire, ce qui va se passer dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, pour nos enfants, nos petits-enfants, va être énorme et difficile à vivre. Et on a, c'est un peu comme ça que j'ai envie de présenter les choses, on est la première génération, depuis que l'homme existe, qui a entre ses mains la conscience de pouvoir laisser une planète qui soit plus vivable derrière lui. Et cette décision, elle doit pas être ni culpabilisante ni négative. C'est quelque chose qui doit être enthousiasmant parce que on a, nous, la capacité à dire, ben voilà, on prend la décision de laisser une planète à nos descendants qui soit quelque chose de bien. Et ce choix-là, effectivement, il faut être conscient qu'il va imposer des contraintes qui sont énormes, parce que ça va modifier nos façons de vivre, ça doit impacter notre façon de vivre, de se déplacer, de travailler, de se nourrir. Donc ce sont des choix qui sont compliqués, qui sont très difficiles, qui se heurtent souvent avec d'autres contraintes qui sont opposées, de pouvoir d'achat, de volonté de croissance, etc. Et c'est cette complexité qu'il faut arriver à faire partager, à approprier par l'ensemble des citoyens. Et ça ne peut pas se faire en une nuit. Nous, les Français, je ne sais pas si c'est grâce ou à cause de notre révolution, on pense qu'en une nuit, on peut tout bouleverser. Non, ce sont des démarches de petits pas, ce sont des choses qui vont être progressives, qui doivent être partagées. Je le dis souvent, le mieux, l'ennemi du bien, si on fait quelque chose de bien, mais on le prend et on ne dit pas « oh, c'est pas assez ». On fait ce qu'on doit faire et puis après, on poursuit.
Alors, vous êtes, on sait, enfin, je suppose que quand vous allez, par exemple, en Inde ou en Chine ou en Afrique, vous ne tenez pas le même discours aux élus, aux décideurs, que quand vous êtes à Montpellier. Donc, en fait, vous êtes devenu un peu comme le fait le GIEC, un espèce de porte-parole des problèmes du monde.
C'est pas, on va dire, j'essaie de pas être un porte-parole des problèmes du monde, j'essaie d'éclairer, de partager que, un, le constat que l'on fait dans les salles de suivi et de monitoring des risques et des événements climatiques, que ce soit en France ou dans le monde, ces deux salles qui sont sur Montpellier, on voit tous les jours les conséquences de ces événements. Donc la première des choses, c'est d'être factuel, en disant, mais nous, ce qu'on dit, c'est pas... On n'est pas des gens qui voulons faire peur. On dit juste qu'on constate que les événements sont là et qu'il faut s'adapter. Et après, on essaie de porter un discours en disant ben, cette adaptation, cette aténuation, elle doit être différente d'un pays sur l'autre. On ne peut pas, nous, Européens, nous, Nord-Américains, il faut qu'on prenne conscience que ça fait des années qu'on brûle des énergies fossiles, on produit du CO2. Et puis du jour au lendemain, on dit à des pays qui commencent à arriver à des niveaux d'économie importants, bon, mais nous, on a fait des bêtises, arrêtez-vous de le faire parce que ça ne vaut plus. Et encore plus, c'est-à-dire, nous, on va continuer à le faire. Il serait impensable d'avoir des Américains qui continuent avoir de l'utilisation du charbon, de l'énergie fossile, et puis qui interdisent aux Indiens ou aux Chinois de le faire.
Alors, vous savez que ce constat, aujourd'hui, commence quand même à avoir fait un peu son chemin et commence à être un peu connu. Sauf que ça crée souvent une sorte de d'éco-anxiété sur la jeune génération, c'est-à-dire que l'ampleur de la chose à faire est telle que les jeunes notamment, se sentent un peu impuissants. Et ce qui est très agréable en vous entendant, c'est que on sent que vous y croyez encore, quoi, et que vous vous battez pour ça. Alors, comment est-ce qu'on peut redonner, justement, quelles sont les premières choses qui vont pouvoir permettre à tous ceux qui vont vivre demain de continuer à vivre et avec bonheur?
Ouais, vous avez absolument raison. C'est essentiel et c'est ce qui... comme vous l'évoquiez, me fournit cette énergie. Aujourd'hui, je suis très touché par cette éco-anxiété, je suis très touché par ces jeunes générations qui, effectivement, sont sous la pression de l'éco-anxiété. Il n'était pas si longtemps avec le Covid, on a interdit à toute une génération de sortir, d'aller à la fac, et à la sortie de cette période si particulière, derrière, c'est une nouvelle couche en disant, mais avec le dérèglement climatique, il faut arrêter de voyager, il faut arrêter de manger de la viande, il faut arrêter. Et c'est une société de pression, d'interdit, qui effectivement génère cette éco-anxiété. Et moi, ma position, et vous l'avez partagée, je dis aujourd'hui, pour nous, c'est enthousiasmant d'avoir ce qu'on a à faire. Et si on change de paradigme, et si on partage ensemble que il faut convaincre autour de nous, pour donner l'exemple, et convaincre sur toute la planète que il faut aller vers une autre voie. Ça, je dis, on est tous à la recherche de sens dans nos métiers, dans nos vies. C'est vraiment on ne peut pas avoir un meilleur sens que de dire je vais œuvrer positivement à transmettre le message, à faire savoir que les choses sont possibles et que on va y arriver si tous on partage collectivement ces valeurs, ces objectifs, et si on oublie un peu l'individualisme, si on oublie notre nombril, si on oublie de regarder nos intérêts personnels, plus regarder vers de l'intérêt collectif. Et c'est ça qui me rend si énergique dans la volonté de porter ce message.
Alors, aller vers quelque chose de plus collectif, relancer le bien commun, etc., c'est pas simple. Et sans doute, ça va prendre du temps. Donc, vous avez choisi, vous, d'agir tout de suite et finalement sur ce qui fait le plus peur, puisque vous agissez sur le risque. Alors, comment en êtes-vous puisque vous êtes quelqu'un qui travaillait sur de la prospective et que vous n'êtes pas dans le déni des difficultés qui s'annoncent, pourtant vous choisissez dans le court terme. Donc ça, c'est... On croyait d'ailleurs que c'était dans du très long terme et on s'aperçoit qu'en fait, ça nous arrive dès maintenant. Mais vous avez choisi de travailler en plus sur le risque, c'est-à-dire sur notre quotidien, d'une certaine manière, et même sur demain.
Tout à fait. Enfin, pourquoi avoir suivi ça? Parce que c'est l'urgence et parce que les besoins sont là. Et quand je dis sont là, c'est pas aujourd'hui. C'est, on en parlait en introduction, c'est il y a 20 ans. Et qu'on peut avoir une réponse immédiate. Notre raison d'être et la raison d'être des équipes qui ont passé le week-end, qui sont passés le relais de nuit et de jour pour accompagner les élus, pour envoyer des SMS, pour demander aux gens d'être prudents.
Alors, expliquez-nous.
La raison d'être, c'est sauver des vies. Et ça, c'est aussi pour cela que on a commencé à travailler.
Alors, expliquez-nous comment vous arrivez à associer ces risques qui sont, on vient de le voir, même mortels, à votre espoir.
Aujourd'hui, c'est face au danger. Et face effectivement à l'augmentation de ces événements, quand on prend conscience de la gravité de la situation, Et c'est souvent dans l'action, avec l'énergie, parce qu'on arrive à faire bouger les lignes, parce qu'on arrive à mobiliser, parce qu'on arrive à voir les choses évoluer. Sur 20 ans, on a vu changer les états d'esprit, on a vu bouger chez les collectivités, chez les maires, mais chez les citoyens, chez les assureurs. On a vu bouger les lignes. Et donc, c'est cette observation de la dynamique qui se met en œuvre qui nous rend positifs et optimistes sur la capacité de l'homme, quand les choses sont bien expliquées, quand les choses sont bien partagées, quand on ne cache pas les difficultés, à dire, ben, ok.
Est-ce que vous croyez que justement ça avance, cette bonne information ?
Bah oui. Je ne sais pas. Je vais pas faire ici la promotion des médias, mais je pense que le genre d'émission que l'on partage aujourd'hui, j'étais juste avant vous sur une radio du réseau Radio France au niveau national, où qui a pris 10 minutes pour en direct expliquer justement la nécessité de culture de risque, la nécessité d'évolution. Donc on voit se propager à travers les médias des messages qui sont de plus en plus pédagogues, qui explique, et on voit les résultats. Et puis, il ne faut pas être négatif. Il y a des choses qui se passent. On parle de la métropole de Montpellier. Il va y avoir cette conférence la semaine prochaine sur Montpellier. On sait que la métropole a lancé un gros plan climat aussi, avec des choses très pratiques qui sont mises en œuvre. Donc, les choses bougent, et on a un peu le travers, nous les Français, d'être très négatifs et de regarder toujours le verre à moitié plein. Et c'est pas comme ça qu'on y arrive. Donc il faut vraiment changer de façon de faire et dire, ben voilà, les choses avancent, elles avancent peut-être trop lentement dans l'esprit de certains, mais les choses sont tellement complexes. Je le dis souvent, c'est un marathon qu'on a à courir. Et il n'y a jamais aucun marathonien qui a gagné un marathon en partant en sprint, parce que sinon, au bout de 100 mètres, il est essoufflé, il s'arrête. Donc il y a cette nécessité de travailler dans la durée, Je suis très très favorable à la démarche des petits pas. Je sais que c'est peut-être pas forcément politiquement correct, mais c'est que comme ça qu'on va arriver à ce bouleversement de façon de vivre que l'on doit absolument connaître pour si on veut arriver à notre résultat.
Alors, vous reconnaissez déjà, par exemple, qu'un gros travail a été fait par les entreprises c'est aujourd'hui quelque chose. Essayez de nous expliquer un petit peu le choix du triple A que vous avez fait pour justement essayer d'harmoniser le travail des entreprises.
Non, on l'a dit, le travail que l'on a à faire tous, globalement, c'est un travail qui doit se faire à l'échelle du citoyen, doit se faire à l'échelle
de l'entreprise,
de la municipalité, de la région, de l'État, et chacun, à son niveau, doit mettre en œuvre des politiques. Et aujourd'hui, toutes les politiques RSE des entreprises qui se mettent en place, quelle que soit la taille de l'entreprise, mais tous ces petits gestes qui consistent à dire au niveau de l'entreprise, mais je maintiens un peu de télétravail, mais ça, c'est une chose qui va contribuer à l'atténuation. Nous, on est sur un bâtiment à Montpellier sur lequel on a des panneaux solaires sur tout le toit et on est à énergie positive. À l'introduction de votre radio, vous il y avait un petit post qui disait oui, bon, les véhicules avec des batteries, est-ce que c'est bon pour les coûts? Oui, c'est peut-être pas l'idéal, mais rouler avec une véhicule hybride ou électrique, ben, c'est mieux que de rouler. Donc,
on faisait...
C'est tous ces petits gestes qu'il faut...
C'était les SUV qui étaient visés. Hein. C'était les SUV, je le rappelle, hein, quand même.
Voilà.
Bien, alors, maintenant, on va aborder justement cette journée du 19 mars qui va être consacrée, dont Divergence est partenaire, qui va être consacrée donc au problème du stress hydrique, donc avec effectivement une approche d'ordre, on vous y retrouvera d'ailleurs, avec une approche qui est d'ordre global et qui montre en quoi les alertes ont fait quand même un peu bouger le monde. Maintenant, il faut voir si justement toutes ces normes qui s'édifient au niveau du global, au niveau du mondial, au niveau de l'Europe, etc., est finalement bien adaptée aux réalités locales, parce que on a souvent encore une divergence entre ce qui se pense, ce qui se met en place au niveau mondial et la réalité locale. Et même chez nous, on est encore dans des conditions peut-être d'incertitude. Regardez, on nous avait annoncé beaucoup d'eau. Vous avez géré, vous, pendant le week-end, ces problèmes de l'Hérault. Et pourtant, que ce soit dans les Pyrénées-Orientales ou sur l'arc méditerranéen, on vit le stress hydrique. Donc, il y a encore des choses à faire.
Ah oui, complètement. Il y aura toujours des choses à faire. Et ce que vous évoquez, j'essaierai de le traduire. Il n'y a pas de solution simple, en fait. Parce que le problème est complexe, parce que le problème, il est à la fois global, mais il était local. Il faut être prudent et se méfier des gens qui ont une solution universelle en disant il n'y a qu'à Faucon. Parce que les problèmes sont complexes et il faut les adapter et il faut travailler vraiment de manière méthodologique. Il y a vraiment un bon diagnostic à faire, il y a des stratégies à mettre en œuvre et puis il y a des actions très précises qui doivent être, elles, locales et adaptées au contexte local, parce qu'une décision générale ne peut pas s'appliquer de manière uniforme sur l'ensemble du territoire.
Préconisez par exemple pour notre région?
Alors, pour la région, même la région, elle est diverse. C'est-à-dire, ce qui se passe, vous l'évoquiez, dans les Pyrénées-Orientales, c'est encore une fois, je dirais, depuis, on a un épisode pluvieux qui a touché la bordure méditerranéenne, mais qui a toujours pas touché les Pyrénées-Orientales, qui n'ont pas eu de cumul. Donc, les décisions qui sont à prendre sur les Pyrénées-Orientales aujourd'hui sont complètement différentes de celles qui vont se faire sur le Gard ou le Gardon ou la Cèze, où là, on a connu une crue de Gardon ou de la Cèze qui a dépassé depuis 10 ans, qui n'avait pas été connue depuis plus de 10 ans. Quoi.
Donc, oui, mais même regardez entre les Cévennes, par exemple, et puis Palavas, on a aujourd'hui quand même aussi une grosse différence. Est-ce dû à une maladaptation?
Non, c'est lié à l'histoire. Depuis toujours, l'histoire de l'humanité a développé son urbanisation, mais sans forcément intégrer toutes les contraintes. Et on est sur un territoire, l'Hérault en particulier, Montpellier en particulier, où il y a beaucoup, beaucoup d'arrivées de nouveaux arrivants. Donc il y a des besoins qui se font jour pour construire, pour avoir de l'eau. Mais on ne va pas pouvoir intégrer toutes les contraintes en un seul fait. C'est-à-dire que on veut avoir de l'agriculture locale pour regagner en souveraineté, de l'agriculture chez nous pour avoir de la souveraineté, il faut l'irriguer. Si on veut l'irriguer, il faut avoir de la ressource en eau, donc il faut faire des transferts ou il faut faire du stockage. Et en même temps, on dit les transferts ou les stockages, c'est pas écologique et il faut pas. Et donc, en fait, on se rend compte que si on met toutes les contraintes sur une même feuille de papier, on arrive à une quadrature du cercle. Donc, ça veut dire qu'il faut arriver à faire des concessions. Et on ne peut pas dire non à tout. Et en fait, il faut méthodologiquement mettre toutes les contraintes et les avantages autour de la table et puis faire des choix et choisir, décider. C'est à la fois choisir, mais c'est aussi refuser certains aspects. Et concession, ça ne veut pas dire abandon. Et je crois qu'il faut qu'on travaille en France cette culture de la concession pour arriver à prendre des décisions qui sont les seules qui soient possibles lorsqu'on a une situation complexe.
Alors, merci, Alix Romagnac. Je rappelle qu'on pourra vous entendre encore mardi 19 et je donne rendez-vous à tous nos auditeurs à la salle Rabelais à Montpellier pour vous entendre le matin, je crois, parler de nouveau du risque. Merci à vous. Au revoir.
Merci à vous. Au revoir.
Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente?
Nous ne sommes pas la solution, nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
C'était Nous n'avons qu'une terre avec Dominique Martin-Ferrari sur le 93.9.